deux versets que je prendrai pour ce message, qui est un peu une synthèse, je dirais, des messages précédents. C'est dans Matthieu 16, 19, où Jésus, dans ce verset, donne donc un principe, et l'autre principe, quelques versets après, un principe pour l'Église. Pour l'Église. Étant donné qu'il vient d'instituer cette Église, il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié. » Mais je vous lis la bonne version, hein, c'est-à-dire celle qui devrait être dans vos traductions, qui ne l'est pas, malheureusement, parce que le verbe du présent continu n'existe pas en français. En grec, il y a le présent qui continue, alors que chez nous, on a le passé, le présent, le futur. Voilà. Donc on ne peut pas traduire, sauf en disant « Ce que tu liras sur la terre aura déjà été lié dans le ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura déjà été. » Aura déjà été lié. Donc c'est un présent continu qui vient du passé. Voyez, c'est Dieu qui fait, et nous qui sommes dans le continu de ce que Dieu fait. Voilà. Donc c'est cette communion, hein, ça parle de communion avec le Seigneur. Et le deuxième principe que Jésus donne quelques versets après, au verset 24, hein, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, qu'il me suive. » Et là, il donne le principe de ce renoncement, ce n'est pas un renoncement pour renoncer, c'est un renoncement qui donne la vie. « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi le retrouvera, la trouvera. » Donc voilà, ce sont les deux principes de vie que le Seigneur donne. Ce qui m'interpelle dans ce dernier mois qui vient de s'écouler dans l'Église, c'est la manière dont Dieu nous conduit. Alors, c'est pas étonnant, mais c'est interpellant, qu'effectivement, il y a cette continuité dans ce qu'il veut que nous comprenions. Alors, qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? Ben, je prendrai simplement ce qu'a dit Nicolas Guillet, qui, sans savoir du tout ce que vit l'Église, bon, pour l'instant, il ne supervise pas l'Église, on est en voie de dialogue, donc il ne me demande pas vraiment ce qu'on vit, mais il a été conduit par le Seigneur à donner ce message. Et il a dit, le projet de Dieu, alors je vous laisse répondre, parce que vous avez entendu comme moi son message. Bon, sauf que moi je l'ai relu, donc voilà, j'ai l'avantage sur vous. Peut-être que vous ne l'avez pas relu en venant ici, je ne vous ai pas prévenu. Mais il a dit, le projet de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas Guillet, dimanche dernier? C'est quoi le projet de Dieu? Quel était le fond de son message, de ce qu'il a voulu... Alors bon, là on n'est pas dans le groupe de maison, mais normalement vous allez faire ça dans le groupe de maison. Vous aurez des questions de ce genre. Voilà, qu'est-ce qui a été dit dimanche? Voilà. Oui? C'est quoi le projet de Dieu?
Le projet de Dieu, c'est pas seulement se réunir
au missile,
mais avoir un
parvis
pour se voir les gens de la ville.
Bien.
Comme
l'entrée de
l'église.
Ouais. C'est bien, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais. Super. Alors, quelqu'un d'autre veut dire ce qu'il a dit? Pardon? Pardon? Réformer. Alors, je retiendrai, oui, tout à fait, c'est la réforme de l'Église. Le projet de Dieu, c'est l'Église. C'est ça, en gros, qu'il a dit. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Voilà. Alors, effectivement, il était conscient de choquer. Pourquoi choquer? Il ne doit pas choquer, l'Église. Mais il était conscient de choquer parce qu'il a dit, d'ailleurs, que, effectivement, l'Église n'a plus bonne presse. Vous voyez? Donc, dire le projet de Dieu, c'est l'Église, c'est un peu... fanfaronnade, ça fait un peu de la fanfaronnade. C'est voilà, un petit nombre de chrétiens, là, 50-60 personnes au Bergenville qui disent voilà, le projet de Dieu, c'est l'Église. Bon, c'est quoi ça? C'est même pas une fourmi dans la France. Bon, donc c'est quoi ça? C'est de l'orgueil, c'est de la présomption, dire que le projet de Dieu, c'est l'Église. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que nous, quand on entend ça, moi, je dis, waouh, si j'entends ça avec mes oreilles naturelles, je dis, bon, attends, bon, on va pas dire ça. Vous voyez, un peu comme le marketing, quoi. Vous n'allez pas vendre des trucs qui ne se vendent pas, quoi. Bon, voilà. Vous voyez, je vous provoque un peu, mais voilà, on a un peu cette réaction de dire, attends, dire que le projet de Dieu, c'est l'Église. Mais c'est quoi ça? Ça fait 2000 ans que l'Église s'est qui s'est disqualifié, hein, surtout en France en particulier. Bon, une fois, je me suis posé la question. D'ailleurs, j'ai posé des questions. Mais j'aime bien poser des questions aux gens qui connaissent, hein, parce que moi, j'ai des réponses, mais je préfère avoir les réponses de ceux qui connaissent. Donc, j'étais étonné qu'en Corée, il y a la plus grande église du monde, que ça marche en Corée et tout ça. Alors, j'ai demandé aux Coréens. Je dis, mais explique-moi, quel est le secret de la Corée. J'aime bien connaître les secrets. Ouais. Et en fait, il m'a dit une chose que je ne savais pas, ouais, je suis comme vous, j'apprends tous les jours. Il a dit, mais le christianisme est venu qu'il y a 150 ans, au 19e siècle. Moi, je pensais que la Corée, voilà, c'était christianisé depuis voilà, Christophe Colomb, enfin voilà, depuis le Moyen-Âge, au moins. Bien sûr, nous, on a eu la chance d'avoir été christianisé dès les premiers siècles. Hein. Dès le deuxième siècle, l'évangile est venu en Europe. Non. Et j'ai compris pourquoi en Corée, ça marche mieux. Parce que quand les gens vont dans la rue et qu'ils parlent de l'Église, les gens, ils n'ont pas une pensée négative sur l'Église. Il n'y a pas les croisades, il n'y a pas l'Inquisition, il n'y a pas les tortures, il n'y a pas Galilée qui a été mis sur le bûcher, il n'y a pas... Vous voyez, l'Église s'est disqualifiée, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison de ne pas croire dans le projet de Dieu. C'est ça que je veux dire. Mais il faut qu'on retrouve la foi. Hello ? Vous me suivez ? C'est pas parce que l'histoire est porteuse de choses négatives que les hommes ont mal géré cette église-là, temporelle, que pour autant, c'est pas la vérité et c'est pas le projet de Dieu. Hello ? Ouais. Donc je voudrais vous insuffler ce matin, comme Nicolas l'a fait, il faut croire dans l'église. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu d'argent de côté? Vous le mettez où? Dans quoi vous investissez? Vous savez, là, je fais un cours d'économie, là. Vous savez que le meilleur moyen, le meilleur support, c'est quoi? Pour mettre son argent qui donne quelque chose, quoi. Que à la retraite, vous puissiez vivre un petit peu, c'est quoi? Pardon? C'est? Il y a trop de gens qui parlent. Des actions. Allez, il y a des actions. Voilà, il y en a qui ne croient plus, voilà. C'est là. L'immobilier. 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 L'épargne. L'épargne. L'or. OK. Il n'y en a aucun qui a dit le meilleur investissement, c'est les enfants. Eh oui, les enfants. Les sociétés un peu plus moins évoluées, enfin je pense africaines ou autres, ils ont compris ça. C'est la famille, les enfants, voyez. Parce que les enfants peuvent prendre soin de vous, enfin à condition de bien les traiter, les enfants. Hein. Il ne faut pas. Si vous avez de mauvaises relations, c'est pas le cas. Mais c'est les enfants, parce que les enfants, ils ont un potentiel, une énergie, une synergie, etc., qui peut développer, qui vous pouvez croire dans les enfants, qu'effectivement, ils peuvent, vous voyez, les forces renouveler, vous allez à la fin des forces, etc., voilà. Mais c'est un principe d'économie qui est connu. Mais vous voyez, on ne l'a pas intégré. C'est les enfants. Dans le royaume de Dieu, c'est l'Église. Investissez dans l'Église. Si vous avez de l'argent, investissez dans l'Église. Voilà. Ce n'est pas le moment des offrandes, hein, mais j'aurais dû le faire avant. Non, c'est un joke. C'est l'Église. Il faut croire dans l'Église. Et moi, je suis très content qu'on puisse rejoindre RNC, parce qu'RNC a une vision porteuse de l'Église, qui n'est pas une vision, on reconduit quelque chose qui existait sans réfléchir. Vous voyez, c'est le problème de l'Église catholique. En ce moment, l'Église catholique, enfin, je ne vais pas généraliser, mais dans les Yvelines, en 78, retourne avant Vatican II. Vous voyez, c'est la messe en latin, les machins, enfin, sans même faire de messe en latin, en tout cas, vers les pratiques, les rituels et tout ça. Voilà. Bon, c'est comme ça. Parce qu'ils pensent que l'Église s'est vidée parce qu'on a quitté ça. Vous voyez, chacun cherche une explication pourquoi l'Église se vide. Bon, voilà. Quoi, l'Église n'est plus crédible. Donc eux, ils pensent, voilà, en revenant à la messe, dans le passé, voilà, toute cette liturgie et tout ça, ça va faire revenir. Vous croyez, vous, que ça va faire revenir des gens dans... Bah voilà. Donc voilà, là c'est peine perdue. Bon, ils font tout pour ça, mais ils vont pas y arriver. Ok. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? pour rendre l'Église crédible. Alors ? Pardon ? Oui, c'est le message de Nicolas Guillet. Hein. Une fois qu'il avait dit « il faut croire dans l'Église », après il a expliqué comment. Et comment est-ce qu'on va rendre, nous, l'Église crédible ? Parce qu'on y croit, parce qu'on investit, on prend des actions dans l'Église, vous voyez ? On investit son énergie. Donc il faut une vision. Et c'est quoi cette vision de l'Église qui va attirer des gens, qui va que les gens, petit à petit, le dimanche, ils vont rentrer ici, ils vont dire « waouh, super, je veux de l'Église ». Je veux investir dans cette action parce qu'elle est porteuse. C'est quoi ? L'amour. C'est l'amour. Okay. C'est l'amour en action. Vous pouvez tout faire, tout. Belle louange, une belle... Enfin, voilà, il y en a qui s'essayent. Hein. Moi-même, dans les années 98, il y a un frère qui m'a dit « Ouais, il faut que cette église elle soit excellente partout. Excellente parmi les enfants. Excellente parmi... L'excellence, voilà. Il faut chercher l'excellence. C'est le message dans les entreprises. Hein, il faut être excellent. » Non, c'est l'amour. C'est pas l'excellence. Vous pouvez être excellent dans un tas de domaines. S'il n'y a pas l'amour, on ne vaut rien. Vous voyez ? 1 Corinthiens 13 le dit bien, vous pouvez faire ceci, cela, tout un tas de choses, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Parce que Dieu est amour. Alors ? Et maintenant, cet amour dont on a parlé, comment il s'exerce dans l'Église pour devenir attractif, à votre avis ? Que nous soyons porteurs de l'amour. Et comment est-ce qu'on est porteur de l'amour ? Pardon ? En l'exerçant. Alors en l'exerçant, dans deux directions. C'est lesquelles directions ? Voilà. Amen. Vous avez entendu ? Dieu et le prochain. Voilà. Donc ce sont les deux axes hein, de la croix. C'est Dieu. Le problème de Dieu, c'est pas trop un problème de l'Église, parce que les gens viennent au Seigneur hein, parce qu'ils cherchent Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu ne viennent pas au Seigneur. C'est normal. Donc ils cherchent Dieu, et après ils cherchent une église. Et après, quand ils cherchent une église, très vite, ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Pardon ? Ils sont déçus. Ils sont déçus de quoi ? Manque d'amour. Alors, c'est vrai, ils sont déçus du manque d'amour. Mais, c'est un peu facile, ça. L'amour, c'est qui le donne ? C'est moi quand je viens à l'église ? Ou c'est moi qui reçois l'amour quand je viens dans l'église ? Voilà. Et le problème, il est là. C'est que, quand on vient dans l'église, on attend de l'amour. Alors, on critique. Oui, il n'y a pas d'amour dans cette église. Alors, le pasteur, vous savez, il faut parfois se retenir. On a envie de dire, mais toi, tu es dans l'église ? Tu donnes de l'amour ? Vous voyez, la vraie question, c'est qui donne de l'amour ? C'est toujours les autres qui doivent donner ou c'est moi ? Voilà. Le principe de Jésus, c'est dans l'Église, il faut donner de l'amour et recevoir de l'amour. Il y a un échange. Allô ? C'est ça l'Église. Et c'est ça l'enjeu de l'Église de demain. Pourquoi devenir ? Pour devenir attractif, il faut ces deux directions. Mais dans cette direction... la plus difficile et qui pêche, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens viennent dans l'église, parce que voilà, ils ont fait une expérience avec Dieu, c'est extraordinaire, c'est voilà, c'est, pour certains ça les transforme complètement spirituellement, mais quand ils viennent dans l'église, ils s'attendent à ce qu'il y ait de l'amour, mais ils se rendent pas compte que eux, ils doivent d'abord donner de l'amour pour en recevoir. C'est la communion fraternelle, et c'est un terme qui est utilisé en grec, dans le Nouveau Testament, que vous trouvez. J'aime bien prendre ces mots, c'est pas pour faire savant, hein, mais c'est parce que il y a des traductions. Okay, et dans les traductions, il y a un tas de mots. Il y a un tas de mots. Et on ne sait pas où elles sont utilisées, ces mots, dans la Bible. Okay. Or, il y a certains mots qui sont un mot qui est utilisé dans différents contextes versets. Et ce mot qui est important, que je voudrais relever ce matin, c'est la koinonia. Koinonia. Vous avez entendu parler de ça? C'est K-O... Non. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ce mot? Il y a certaines églises hein, qui prennent ce nom, Koinonia. Je vais vous lire un petit article de Rick Joyner qui m'a interpellé, c'est ce sujet, qui un prophète hein, qui a une pensée sur l'Église et qui dit ceci. Pourquoi la Koinonia? Alors, Koinonia, elle est utilisée dans différents versets de manière différente, mais c'est toujours le même mot. Koinonia, on peut le traduire par communion, la communion, hein, l'union commune, union comme union. Mais qui s'utilise dans deux types de versets. Le verset pour Dieu, communion, koinonia avec Dieu, et koinonia avec les frères. Hein, qui dans ce contexte-là, c'est plutôt des associés. Ce sont des associés, des compagnons, des voilà. Et donc, c'est plus dans une relation d'alliance les uns avec les autres. Alors, pourquoi la koinonia, la communion fraternelle, est-elle si importante? Quand on parle de la mission, la fameuse mission, aller par tout le monde, prêcher l'évangile, etc., pour établir l'Église. L'Église, c'est le nouveau peuple de Dieu qui réunit toute langue, tout peuple, toute nation, juif, grec, etc., esclaves, libres, femmes et hommes, etc. Donc l'Église, c'est ce peuple-là. Pourquoi Dieu qui a donné cette mission à faire grandir cette Église à ses disciples, pourquoi est-ce qu'elle échoue? Alors voilà ce qu'il dit. Une des raisons, pour lesquelles nous avons échoué à remplir cette mission, c'est notre tendance à vouloir faire des convertis plutôt que des disciples. C'est la notion de disciple, à devenir disciple de Jésus. La grande mission, c'est de faire des disciples. Jésus n'a pas dit de faites des convertis, faites que des gens soient sauvés. Il dit faites des disciples. Et le disciple, là c'est un autre message de comment il s'appelle John au début du mois de septembre, il est passé, Dan Snead, faites des disciples, suis-moi. Hein, suivre un maître, c'est être un disciple. Cet ordre de Dieu, c'est de faire des disciples de Jésus. Si les disciples ne sont pas formés, nous échouons dans cette mission. Le Seigneur a clairement décrit ce que doit être un disciple. De nos jours, le vrai disciple est dur à trouver chez les chrétiens. Une des raisons, c'est du véritable discipulat. C'est pas possible sans la koinonia. De 1 Jean 17, rappelez-vous, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion, en koinonia, en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette écriture éclaire le fait que nous ne pouvons pas demeurer dans la lumière sans avoir la koinonia. La koinonia, la communion, est liée à la lumière, et vice-versa. C'est aussi essentiel pour notre purification spirituelle. Et Rick Joyner dit souvent, avec le ton de l'humour, mais en vérité, nous ne pouvons simplement pas grandir en Christ sans les frustrations et les irritations de la vie de l'Église. Alors là, c'est un peu un pavé dans la mare, hein, parce qu'on voudrait que dans l'Église, ce soit parfait. Alors justement, il dit une chose qui est vraie, c'est que quand on vient dans l'Église, on voit qu'il y a des frustrations, des irritations, parce que voilà, je peux pas faire ce que je veux ou comme je veux, il faut que je change ma méthode, il faut que je voilà. Et on voudrait que ce soit parfait. Et c'est ça qui nous freine, et c'est ça que l'ennemi utilise pour nous freiner. Or, hier, dans le DTQP, on a fait cette leçon, le cœur du serviteur. Et à un moment donné, dans la leçon, on a un peu partagé là-dessus. Dans la leçon, il y a cet enseignement de dire, voilà, quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté, comment est-ce qu'on réagit? Très souvent, on dit, ah, c'est le diable. Ben oui, l'épreuve, c'est le diable. Là, donc, il faut que le diable s'en aille. Là, c'est fini. Et le problème est réglé. Ou alors, on dit, oh, ben, ce que les hommes font, c'est pas sage. Hein, voilà. On ne peut pas être trop méchant, mais voilà, on dit que c'est pas sage, quoi, faire ça. Mais quand c'est Dieu, on dit, c'est pas juste. Ouais. Et ça, c'est exactement l'inverse du cœur du serviteur. Le cœur du serviteur dit pas, oh, oui, mais ce qui m'arrive, tout ça, c'est pas juste. C'est pas juste, voilà. Parce qu'il y a une épreuve, c'est pas juste. Vous voyez, déjà là,
on juge Dieu. Parce que, et on se met une malédiction sur soi en disant ça, parce que Dieu, il est bon. Il est juste. Pourquoi l'épreuve sera injuste ? Non. Parce que Dieu permet que toutes les épreuves, ça soit des tests de notre discipulat. C'est ça la vraie réponse. Des tests. Sur cette terre, en attendant les nouveaux cieux, la nouvelle terre, nous sommes testés par rapport à notre foi. C'est pour ça Jésus tout le temps parle de la foi. Ayez la foi. Faites la foi. Mais pourquoi vous supporterez? Je vois déjà Jésus, il en avait marre de ses disciples. Il le dit. Il en a marre de vous, quoi. Bon, il les aimait quand même jusqu'au bout. Mais il a quand même dit, voilà, ça suffit, quoi. Pourquoi vous n'utilisez pas la foi, hein? Et parce que on aimerait que ça marche bien. On aimerait, vous voyez, il les envoie en mission. Et voilà. Ils rencontrent des gens dans le village, non, on ne veut pas de Jésus, et ils viennent chez Jésus, ils disent, écoute, envoie le feu, là, détruis-les, parce que ça ne va pas, ça, ils veulent pas. Vous voyez, c'est ça. On veut que tout se passe comme on a envie de faire, comme on a envie. Or, le Seigneur dit non. Il répond même pas à ses disciples, il dit, attendez, c'est pas question de balancer le feu sur les gens, etc. C'est vous qui êtes en cause, vous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Restez dans la priorité de votre discipulat et servez le Seigneur et ne vous occupez pas des résultats de ce que vous faites. Mais occupez-vous de votre vie, de témoignage, de votre vie d'obéissance à Dieu. Donc, ça encore, ça va. Mais quand on arrive sur les relations fraternelles, on voudrait que tout marche sur des roulettes. On voudrait que dans l'Église, tout marche. Alors, ça dépend de nous pour faire mieux marcher les choses. Mais que tout marche, non. C'est Dieu le permet pour tester notre foi, pour grandir. Parce que toute épreuve nous aide à grandir. Quand il n'y a pas d'épreuve, on ne grandit pas. Vous avez déjà remarqué ça? Au contraire, on baisse même dans notre vie spirituelle parce qu'on se relâche. On dit, bon, bah ça va, je suis béni. Hein, je suis l'enfant du Seigneur, etc. Donc il y a plus tendance à se relâcher que de se mobiliser, mobiliser son énergie. Je reviens au texte de Rick Joyner pour le continuer. Il dit, il y a sûrement plus de bonnes raisons que de mauvaises d'expérimenter la koinonia, mais les défis nous aident à grandir en maturité. La vraie Église, idéaliser la vie d'Église. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se retirent de la vie d'église, ils suivent ça sur Internet, c'est sûr que sur Internet, il n'y a pas grand monde qui va les déranger. Ils écoutent et puis ils ferment et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de frères et sœurs qui remettent leur vie en question. Donc idéaliser la vie de l'église, tout comme rejeter l'église, va nous éloigner du chemin de la vie. Parce que le problème ici, c'est la vie. Hein ? La communion de l'église amène la vie. Bien sûr, il y a la vie spirituelle ici, hein, mais on a besoin aussi de la vie psychique, de la vie sociale, de la vie. Rappelez-vous, Nicolas a dit que Dieu a créé l'homme. Il a dit, ce n'est pas bon qu'il soit seul, et pas simplement en couple, pas simplement dans le couple, mais dans la société avec les enfants, etc. La solitude n'est pas dans le plan de Dieu. C'est les relations. Donc la vraie vie d'église, la koinonia, peut être une des choses les plus merveilleuses que nous puissions expérimenter, mais une des plus difficiles. Des plus difficiles. Comme dans toute relation, y compris le mariage. Comme le Seigneur l'enseigne dans la parabole du semeur, vous rappelez, la semence tombe dans les rochers, dans la bonne terre, etc. Beaucoup vont abandonner quand les tests vont arriver. Quand l'épreuve arrive, hop, ils abandonnent. Beaucoup vont abandonner l'Église, beaucoup en ce moment abandonnent leur mariage quand les tests sont là, y compris chez les chrétiens. Vous ne pouvez jamais réussir un test en abandonnant. Vous voyez ? Si vous voulez passer votre examen, Mine l'a passé récemment, si tu avais couru parce que le test est trop dur, on t'aurait pas donné ton permis. Tu as persévéré, c'était difficile, mais tu as passé le test. Tu vois ? Mais voilà, un test c'est fait pour passer. C'est pas fait pour abandonner. Alors, et toute la vie que nous allons passer, c'est un test. Toute la vie. Est-ce que nous allons abandonner où est-ce que nous allons persévérer. D'ailleurs, la Bible dit, regardez les gens à la fin de leur vie. C'est là que vous verrez s'ils sont vraiment des disciples. Alors, l'effondrement du mariage est lié à l'effondrement de la vie de l'Église et vice-versa. Rick Joyner pense qu'effectivement, c'est lié, y compris dans l'Église. Les mariages se dissolvent dans l'Église parce que on n'accepte plus les frottements dans cette communion fraternelle. On veut que tout aille bien. John Bever, il avait un collègue pasteur, une très grande église, il n'a pas dit qui c'était, peu importe. Et ce pasteur, il a divorcé. Et il l'a appelé en disant, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? N'importe quoi. Il dit, oui, mais c'est la volonté du Seigneur que je sois heureux. Et je ne suis pas heureux avec ma femme, je suis heureux avec une autre femme. Et comme quoi on peut tordre, hein, il veut que je sois heureux. Bien sûr, mais il veut que je sois heureux. Mais à côté de ça, le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Vous voyez, donc on joue avec les mots. Bon, heureusement, il a réussi, au bout des années, à le refaire revenir avec la grâce de Dieu. Mais voilà, même des pasteurs disent, mais non, le Seigneur, il veut que je sois heureux. Hein, Pichou? Le Seigneur veut que je sois heureux. Vous voyez, donc on se conforte dans le fait qu'il faut être heureux. Et donc le bonheur, ça justifie tout. Je peux quitter ma femme, je peux faire ce que je veux, etc. Vous voyez où ça va? Parce que on ne veut pas les tests. Le mariage, c'est quoi? C'est un test. C'est un test de quoi? De la mort de nous-mêmes. Hein, y a trois personnes qui veulent votre mort. C'est qui? C'est connu, hein? C'est le diable, bien sûr. Il veut votre mort. Bon. Qu'est-ce qui veut votre mort? C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit renoncer à vous-même. Il veut votre mort. Et qui? Ben, votre conjoint. Votre conjoint, il veut votre mort. Ouais. Parce qu'il faut l'aimer plus que vous-même. Eh oui. C'est pour ça qu'il vous donne un conjoint. C'est pour vous aider à mourir. Ben, vous voulez vivre, il faut mourir. Eh oui. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 5 que l'homme doit aimer sa femme comme... Et qu'est-ce qu'il a fait Christ pour l'Église? Oui, je ne vous raconte pas de bêtises. Ben là, il faut lire la Bible. Eh oui. Si vous faites ça, une fois il y avait une dame qui a une chaire d'université en sociologie à Nanterre et qui voulait, enfin, qui n'était pas contente. Voilà. La soirée a mal commencé, elle a commencé à m'attaquer parce que j'étais pasteur. Elle m'a dit voilà, il y a un pasteur qui a mangé avec vous. Et elle a dit oui, mais moi j'étais dans un mariage catholique là, puis le prêtre il a lu. Ces passages, on ne devrait plus les lire, c'est ignoble, la femme d'être soumise à son mari. Et elle a commencé à m'attaquer. Je dis, ouais, madame, vous avez vu le verset qui suit là? Oui, le verset après là. Que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il doit donner sa vie. Ah, mais vous avez raison. Et là, elle a complètement changé de sujet, elle a complètement changé de bord, elle a reconnu qu'elle avait tort de croire ça, mais parce que voilà, ben elle a entendu ça. Sur les mariages, le mariage, la femme doit être soumise, la femme doit être soumise, comme c'était une femme, bien sûr, certaines valeurs et tout ça, elle ne pouvait pas accepter ça. Elle dit, mais attendez, la Bible dit aussi le principe de l'intersoumission, c'est l'intersoumission. Parce que si vous lisez le verset précédent, la femme doit être soumise, c'est marqué, soyez soumis les uns aux autres, c'est ça. Le principe de la femme soumise, c'est le principe de l'intersoumission, l'homme aussi doit être soumis à la femme. D'une autre manière, parce que chacun a un rôle différent, vous voyez. Mais c'est ce filtre qu'on a qui nous empêche de voir réellement, entendre réellement la parole du Seigneur. Voilà, donc l'effondrement du mariage est lié à l'effondrement de l'Église, de la vie de l'Église. Ce qui guérira l'un, guérira l'autre. Moi, je pense qu'effectivement, si l'Église guérit, les couples guérissent, les mariages guérissent. Les fondements de la société guérissent. Amen. Et c'est aussi la vision d'RNC. La croix, c'est le poteau vertical. Là, c'est un peu incliné, mais mettez le vertical. La croix, c'est le poteau vertical, pardon, ici, là. Vertical. Parce que là, j'ai dessiné le chérub. Donc, j'ai dessiné les points cardinaux. Mais la croix, c'est pareil. Donc, la croix, Le poteau vertical représente notre connexion avec Dieu et le poteau horizontal avec les autres. Une des explications de prendre notre croix, c'est que nous devons avoir deux connexions dans nos vies. Deux connexions. Bien sûr, notre connexion à Dieu éclipse notre relation avec les autres parce qu'elle doit être gardée en premier. C'est elle qui dirige le second. Mais si nous l'avons et la gardons en tout premier, nous aurons aussi une relation avec l'autre. Comme Jean le dit dans l'évangile de Jean, 1 Jean, nous devons aimer nos frères si nous voulons aimer Dieu. Alors, que pouvons-nous faire pour encourager la koinonia dans l'Église ? Donc, c'est la question aussi que Nicolas a soulevée, et c'est le défi de ce 21e siècle. Tout d'abord, et par-dessus tout, nous devons chercher la présence du Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Yves Gaillard. Il y a le temple et le parvis. Hein. Le parvis, c'est là où tout le monde peut venir. Hein. Mais le temple, c'est là où on adore Dieu. Et nous devons être des adorateurs. Si les personnes viennent ici et ils rentrent dans un endroit où il y a l'adoration de Dieu, ils sont touchés par la grâce de Dieu. Et ils tombent à genoux et ils adorent le Seigneur. Amen. C'est ça le réveil. Hein. Là, on ne parle pas de réforme, on parle de réveil, de la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut pas tenir dans la présence de Dieu quand elle est là. Et il faut que nous soyons de ceux qui attirons la présence de Dieu. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, qui est indispensable. À quoi sert le temple le plus glorieux si Dieu n'est pas à l'intérieur? Alors nous devons rechercher les relations et pas juste attendre d'être recherché par les autres. Barnabas, par exemple, il prend l'exemple de Barnabas, dans son appel, il a fait des efforts pour rejoindre Paul à Antioche. Hein, il a voulu avoir une relation avec Paul. Et à l'époque, il marchait à pied. Et ça prenait plusieurs mois pour Barnabas de rejoindre Paul. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se plaignent de venir à l'église parce qu'ils mettent plus de 30 minutes pour venir à l'église. Hein, alors que Barnabas, pour chercher les relations. Et Barnabas, il n'a pas hésité à marcher des mois pour rejoindre Paul et marcher ensemble dans cette relation pour servir le Seigneur. Une chose, vous voyez, le problème, c'est qu'une chose devient un trésor quand c'est rare et difficile. Plus c'est facile, moins c'est un trésor. Et parfois, nous ne connaissons pas notre trésor. Dans des pays comme l'Afrique ou autres, où il n'y a pas les moyens de locomotion, il y a des gens qui viennent. Je me rappelle le réveil des Zoulous. Il y en a qui ont vécu, lu ce livre, Réveil chez les Zoulous, en Afrique du Sud. Les gens ils font des semaines de marche à pied dans la brousse pour venir au centre. Là, il y avait le centre du réveil, quoi. Et ils étaient bénis, vous voyez, parce qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir la bénédiction du Seigneur. Quand on a un trésor, on ne compte pas. Hein. Et quand c'est trop facile, on ne considère plus comme un trésor. Et l'Église doit devenir un trésor. Hein. Un trésor, on vient pour recevoir la bénédiction du Seigneur et les relations avec les autres, même si elles ne sont pas faciles, hein, parce qu'elles vont nous aider à grandir. Donc il faut avoir des valeurs et connaître la juste valeur des choses. La cité de Dieu est en train de construire, la cité que Dieu est en train de construire, celle d'Abraham, etc., hein, et à chercher. Comme tout étranger cherche, elle est construite sur Jésus par la koinonia. Chercher la présence du Seigneur est beaucoup plus que chercher ses bénédictions. On peut venir à l'église pour chercher des bénédictions, mais à ce moment-là, on va ignorer les autres. Mais quand on vient à l'église, on sait qu'il y a aussi des relations. Eh bien, là, ça change les choses. Il bénira beaucoup de choses où il n'habite pas. Dieu bénit des choses. Mais ce qu'il veut, c'est avant tout bénir là où il habite, au milieu des siens. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, il dit « Il sera au milieu d'eux. » Au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont rassemblés. Et là, Rick Joyner insiste un peu sur le mot « rassembler ». Rassembler signifie pas simplement être ensemble, dans un même lieu, dans une même pièce. Et prend l'exemple du vélo. Il nous dit que, par exemple, un vélo, vous pouvez l'assembler. Vous avez un tas de pièces, vous allez chez, Decathlon, Bon, Decathlon, je crois qu'ils ont des monteurs, donc vous pouvez partir avec les vélos assemblés. Mais voilà, si vous l'achetez en pièces détachées, vous le montez. Hello? Vous l'assemblez. Okay. Et c'est dans cet esprit-là que le mot assembler, assembler ensemble, est utilisé. Comme les morceaux d'un vélo, d'un puzzle, hein, qui sont assemblés les uns les autres. Dans Hébreu, donc, il dit ne quittez pas votre assemblée. Il y a des pasteurs ou dans le passé, je sais qu'il y a des églises qui utilisaient ça pour pousser les gens à venir aux réunions. Hein, pour venir aux réunions, voilà, parce qu'ils allaient dans d'autres assemblées, et bon, c'était pas bien, bon, c'est un peu moralisateur. Mais le texte ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire, voilà, il faut que vous veniez dans mon église, parce que l'autre église, voilà, on est meilleur qu'eux. Voilà, on ne peut pas dire qu'elle est moins bien, mais on est meilleur. Voilà. Donc venez ici. Ce n'est pas ça. Le texte veut dire, venez là où on rassemble les morceaux, où on construit quelque chose ensemble. On construit le vélo. Et on construit plus que le vélo, on construit l'église. Vous voyez ? Parce que vous êtes des pierres importantes dans l'édifice et que cette pierre, qui n'est pas juste une pierre, une brique, hein, qui ne bouge pas, c'est dynamique, c'est quelque chose de dynamique, c'est une relation dynamique. Et on a besoin de cette relation dans la construction ensemble, vous voyez ? Parce qu'on construit quelque chose, un édifice qui est formidable, qui n'est pas une société civile, qui est une société à la gloire de Dieu. Donc vous voyez, notre vision doit changer, notre regard de l'Église doit changer. On doit le voir comme pas simplement un lieu d'adoration, mais un lieu où on rassemble les morceaux que nous sommes pour faire un lieu d'assemblage. Vous voulez qu'ici ce soit un lieu d'assemblage ? Vous savez, l'assemblage, des fois il faut prendre le marteau pour rentrer. Enfin, c'est pas bien, hein, parce qu'en aéronautique on n'a pas le droit d'utiliser les marteaux, il faut que ça rentre pile poil. Voilà. Mais bon, ça c'est du grand art. Hein. Parfois, il faut prendre un petit marteau, voilà, petit maillet, pas méchant. Mais voilà, ça fait un peu mal au passage. C'est juste un avertissement pour ne pas manquer les réunions, voilà, mais pour échouer à être rassemblés ensemble comme nous sommes appelés à l'être. Voilà, donc c'est pas les réunions qui sont importantes, c'est l'assemblage. Pour construire une église, là où il y a vraiment la vie de l'église, une koinonia, nous devons faire des choses pour promouvoir intentionnellement des relations entre les membres. Ça peut être des petits groupes. Alors en ce moment, on a démarré les groupes de maison. Je crois qu'il y a des bonnes choses qui se passent parce qu'il y a des relations qui s'approfondissent, des dîners, des communions d'église. Alors, en France, on est très bon dans les dîners, donc utilisons ces outils, hein, pour rassembler les gens, des voyages missionnaires ensemble, voilà, toutes sortes de choses, de faire ensemble. Cependant, les rassemblements qui conduisent vraiment à la koinonia vont se centrer sur la présence du Seigneur. Donc il faut que dans nos réunions, on ait toujours la louange, l'adoration présente. Hein. Si on oublie ça, on va se réunir pour se réunir. Et alors là, ça n'a plus de sens et ça ne donne plus de fruits de la véritable koinonia, de la communion. C'est pour ça aussi qu'on fait la communion, parce que la communion, on a le sens de la transcendance. C'est-à-dire que c'est sacré. C'est, on communie à un Dieu qui est saint. Et pas, on ne le traite pas n'importe comment. Voilà, on a du respect. Voyez. Donc la Sainte Cène, Jésus l'a institué dans cet esprit-là pour nous rappeler la dimension verticale. Alors il dit quelque chose d'important et il termine là-dessus. Dans toute poursuite spirituelle. Il y en a qui font des poursuites spirituelles ici ? Levez la main. C'est quoi une poursuite spirituelle ? Ah, c'est pas la poursuite, là, je sais pas comment ça s'appelle, triviale poursuite. Hein. Non. Ce qui veut dire, c'est on cherche à grandir dans l'esprit. Il y en a qui cherchent à grandir dans l'esprit ? Ouais. Bon, c'est la poursuite spirituelle de Rick Joyner. Donc, la poursuite spirituelle, nous devons garder ce principe en tête. Écoutez bien le principe. Entre le lieu où nous recevons la promesse de Dieu et la terre promise, ou l'accomplissement de la promesse, il y a toujours un désert. Waouh ! Waouh ! Hello. Les Israélites, ils ont pleuré, ils ont gémi, ils ont crié à Dieu en Égypte parce qu'ils étaient dans l'esclavage, ils étaient maltraités, ils avaient été courvés et tout ça. Bon, ils ont crié à Dieu. Dieu, il entend. Il a entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a libérés. Mais comment est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il les a pris une translation dans l'esprit et les a amenés dans le pays de Canaan ? Comment est-ce qu'il a fait ? Il peut le faire, hein ? Je ne dis pas le contraire. Mais comment il l'a fait ? Sylvestre-là. Comment ? Quelles épreuves ? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont passé dans le désert. Parce qu'il y a un désert entre l'Égypte, si vous ne le savez pas, regardez la carte, et la terre promise. Ah bah oui, Dieu les a fait passer dans le désert. C'est pour ça que je vous ai dit, il aurait pu prendre un gros bateau, vous voyez, le bateau de Noé, 10 fois plus grand, et hop, voilà, un petit tour en bateau, et puis ils sont arrivés. Terre promise. Non, il n'est pas fait. Ils sont passés par le désert. Et c'est un enseignement spirituel. Vous voyez ? Le désert, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Eh oui, tu l'as dit. Eh oui. Et c'est ça le cœur de serviteur. C'était ça l'objet de la formation d'hier, du TQP, avoir un cœur de serviteur. C'est-à-dire accepter les tests avec joie. Qui accepte les tests avec joie ? Levez la main. Waouh ! Quel disciple ! Je suis ébahi. Non, mais c'est ça. À partir du moment où on accepte les tests avec joie, parce qu'on sait qu'on va apprendre quelque chose, vous voyez, il faut avoir une vision. Une vision des choses. Si vous n'avez pas une vision des choses, vous êtes au ras de terre. Waouh, la montagne, la vision. Bah, pff, m'arrête. Okay ? Il y a un pasteur un jour qui est venu, il est monté à l'Himalaya. Je ne sais plus comment il s'appelle, un pasteur de. Je ne sais plus son nom. Enfin, il a fait un clip, il a fait des vidéos, il a passé à TF1 et tout ça. Et il est dans la région de Gap, à Gap. Voilà. Mais il nous a dit, là, aux jeunes, il a expliqué comment il a fait. Hein. Il peut passer de rien à l'Himalaya. Hein. Parce que l'Himalaya, son guide est mort. Hein. C'est lui qui a repris le leadership du groupe pour monter. Hein. L'autre est terminé. À 6000 mètres là-haut, il y a des choses qui se passent. Hein. Bon. Et tous les jours, il allait sur la montagne qui était en face de lui. Mais, vous voyez, nous, enfin moi, je monte difficilement une montagne. Lui, il courait. Parce que l'Himalaya, c'était grand. Hein. Donc lui, il avait 2000 mètres à parcourir. Il courait, montait, descendait, il courait et montait. Voilà. Et sa femme l'attendait. Ouais, vas-y, tu vas y arriver. Voyez. Mais c'est un travail, c'est un effort. Mais il y en a qui disent, oh, la montagne, c'est difficile. Ah, oui. C'est comme la Bible qui dit, le fainéant, enfin celui qui veut faire, il dit, ah oui, je ne vais pas sortir, il y a un lion dehors. Ouais, un lion dehors, ok. Bon, il n'y a pas de lion dehors, mais bon, là, il se prouve que voilà, il ne va pas sortir, c'est dangereux, dehors, c'est un lion. Ouais, ouais. David, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le lion, paf, il a déchiré, terminé, c'est fini. Ouais, c'est la différence entre quelqu'un qui, voilà, qui a une vision. Et quelqu'un qui dit non, il y a un lion dehors, moi je ne vais pas sortir, c'est dangereux. C'est dangereux, Dieu m'appelle, oui, mais d'accord, ok, mais il y en a un autre qui peut y aller, quoi. Vous voyez ? Et là ? Non, il faut prendre les épreuves, les tests, comme quelque chose qui va nous faire grandir. Dis-le à ton voisin, là. Dis-le à ton voisin, encourage-le. Dis non, non. Hein, prends le test comme quelque chose qui va te faire grandir. Ah, vous voyez, je me cache derrière Rick Joyner. Mais bon, je le crois aussi. Le désert, et je termine là-dessus, le désert signifie la préparation pour la terre promise. Ne soyez pas secoués quand vous commencez à poursuivre la koinonia, car le contraire semble se produire avec des défis qui éclatent de partout dans les relations. C'est juste un signe que vous êtes sur le bon chemin. Allô ? Amen. Vous voyez, moi je suis content. Parce qu'on a eu des problèmes dans le groupe du TQP. Ah, pourquoi je suis content ? Parce qu'on l'a surmonté par la voie de la victoire. Oui. Mais si on n'avait pas eu ces problèmes-là, on n'aurait pas appris ce qu'on a appris. Oui, oui. Il faut avoir une vision. Il faut voir les choses. Comment Dieu agit ? Quel est son plan ? Ah, bien sûr, nous, on est. Oui, ça n'aurait pas dû se faire, etc. Si vous restez là-dedans, vous ne progressez pas. Parce qu'avec des si, on refait Paris. Bah, Paris, il est fait, hein. Pas besoin d'être refait. Hein. Donc, restez dans la réalité. Et c'est ça la différence avec la naïveté. La naïveté, on veut toujours être dans ce qu'on pense que ça doit être. C'est ça, la vraie naïveté, c'est « ouais, je suis naïf, voilà ». Le problème, c'est que la naïveté conduit toujours à la déception. Toujours. Toujours. Alors que le courage, la volonté de prendre la victoire, de dire à cette montagne « déplace-toi au nom de Jésus », mais se déplace pas toujours comme ça avec un doigt, c'est parce que je persévère dans la koinonia. Je persévère dans la koinonia. Dis à ton voisin, je persévère dans la koinonia. Voilà. Alors, je persévère dans la koinonia verticale, bon, ici, avec Dieu. Je lis et je délie, je lis et je délie, je lis et je délie. Je pardonne, je bénis, etc. Je fais ce que le Père fait. Vous voyez? C'est ça, lier et délier. Je fais ce que le Père fait dans le ciel. Ce qui a été fait et continue à se faire parce que moi, je rentre dans ce que le Père fait. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a montré. Le disciple fait la même chose que le maître. Et Jésus l'a fait. Il a lié, il a délié. Il a guéri des personnes, il a délivré des démons, il a chassé, il a donné l'autorité à la nature, à la tempête, etc. Et nous sommes appelés à faire ça, à lier, délier, faire ce que le Père est en train de faire sur la terre. Donc ça, c'est la koinonia verticale. Et la koinonia horizontale, eh ben, c'est de travailler nos relations. Alors, nos relations, c'est aussi simple que ça. Ça fait partie d'aimer son prochain. Et le premier prochain, c'est celui qui est assis à côté de toi tous les jours. Ça part du conjoint. Dernière chose, et je m'arrête sur cette pensée. Pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi ce matin, mais il paraît que les juifs, les rabbins, ils posent toujours des questions, comme Jésus. Et c'est là qu'ils voient que les enfants intelligents, c'est ceux qui posent des questions, pas ceux qui donnent les réponses. Ceux qui posent des questions. Alors, je vous pose une question. La crise économique, la crise sociale, la crise la société, non, la société, pas spirituelle, la société aujourd'hui, elle vient de quoi? Entre autres. Mais la grande réponse, il y a une grande réponse à ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise? La société aujourd'hui, vous savez qu'il y a une crise aujourd'hui? Bon. En dehors du spirituel, hein, parce que bien sûr, le spirituel. Pardon? Est-ce qu'on était endetté? Il y a deux pôles. Je reviens à la créativité. Dieu a placé. Dieu est créateur. OK? Mais comment est-ce qu'il crée? Moi, j'aime bien connaître les secrets de la création de Dieu. Alors, si vous voulez savoir comment Dieu crée, la manière de créer, si vous voulez faire la même chose, bien vous vous mariez, vous faites des enfants. Comment vous faites des enfants? Vous unissez ensemble? Hein? Non, vous voyez, il faut parfois revenir à des choses simples. Hein. Bon, sinon, on décolle. C'est plus... Il y a un homme et il y a une femme. OK? Ils se mettent ensemble et ça donne des enfants. C'est la créativité. C'est la première création que Dieu donne. Co-créer, la co-création. On crée avec Dieu. Ça, c'est le modèle. Dieu l'a mis dans la nature. Il l'a mis chez les hommes, chez les animaux, partout. C'est un principe de vie. Voyez-vous ? Ça, c'est la koinonia. Koinonia horizontale, c'est-à-dire fraternelle, relationnelle. Hein? Il faut s'unir les uns aux autres. Vous apprenez quelque chose, hein? C'est simple, hein? C'est ça la créativité. Alors, lisez Christian Schwartz, il l'explique mieux que moi. Mais Dieu a placé dans la nature le modèle de créativité, les principes de vie, que si nous les suivons, eh bien, nous avons cette koinonia fraternelle et nous allons aimer l'Église. Ouais, c'est ça. C'est ça le vrai question. Aimer l'Église. C'est aimer l'Église, c'est aimer la koinonia. C'est-à-dire aimer l'autre parce qu'il est différent de moi. Aujourd'hui, on veut des mariages homosexuels parce qu'on ne veut pas que l'autre soit différent. Il veut qu'il soit comme moi. Je l'aime. Il est comme moi. Mais non, il faut l'aimer parce qu'il est différent de toi. Ah oui, mais c'est difficile. Vous voyez? C'est là le problème, c'est que là on est dans le désert, il faut le traverser pour chercher la relation qui existe quand on échange. Vous me suivez là? C'est ça la réalité de l'Église. Okay? Alors moi je suis content qu'il y ait des frottements dans l'Église, mais qu'on les surmonte. Parce que la crise de la société actuelle, c'est ça. C'est que la société actuelle, elle oscille d'un côté à l'autre, de l'autre à ce côté, etc. Et ils ne trouvent pas l'équilibre parce qu'ils n'ont pas l'amour pour s'aimer l'un l'autre. Je donne un exemple. sans remonter à Mathusalem, hein, parce que ce qu'on me reproche un peu parfois, je vais trop loin. Restons dans le XXe siècle. Au XXe siècle, la société, elle a cru en quoi ? Au communisme. Ben, la France est communiste. Le communiste est un peu spéciaux, parce que bon, il y en a qui roulent, ils sont communistes. Mais bon, on croyait à la communauté, mettre des choses ensemble. Okay ? Donc si vous voulez, ces deux pôles, bon, bien sûr, ils sont masculins, féminins, c'est le genre, ce qu'on appelle le genre. Mais il y a aussi le groupe et l'individu. Ce sont deux pôles opposés aussi, qui doivent travailler en koinonia, en relation. C'est quoi ? Le groupe, c'est des gens qui travaillent ensemble. Enfin, qui sont ensemble. Mais c'est difficile d'être ensemble. En plus, c'est pas créatif. Parce que si vous mettez tous pareil, regardez les nazis, ils ont fait tous pareil, vous avez vu ce que ça donne ? Ensemble, paf, une seule tête, un seul peuple, un seul Reich. Hey, ça c'est le danger. On tombe, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisme, le rationalisme, l'objectivisme, en fait tout ce qui est raison, si vous voulez, c'est du côté masculin. Et on pense que c'est une solution de mettre les gens ensemble. Donc on a poussé le communisme à fond. Et on a vu que il y a des limites. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On pousse l'individualisme à fond. On dit, vous êtes des consommateurs. Plus vous consommez, plus vous allez créer de la croissance, plus tout le monde va être riche. Ok ? Donc vous voyez, on passe du groupe à l'individu. Et c'est le tour de balancier. Parce qu'on cherche. Et dans l'Église, il ne faut pas faire ça. Sinon, on fait comme le monde. Dans l'Église, il y a le groupe, il y a l'Église, le rassemblement, et il y a l'individu. Si chaque individu donne le maximum de son potentiel à l'intérieur du groupe, il va créer une valeur ajoutée qui va faire que l'Église va être un rayonnement spirituel parce que l'ensemble de l'Église va rentrer dans son potentiel. Vous me suivez ? Et le groupe, s'il n'existe pas, ce sont que des individus qui vont se produire. Mais en tant qu'individu, on ne peut pas faire grand-chose. On parlait de synergie. Nicolas Guillet a dit qu'un bœuf, c'est vrai, ou un cheval, il tire, mettons, une tonne. Et deux chevaux ensemble, ils tirent 10 tonnes. Pas 2 tonnes, 10. C'est un principe qui est, vous voyez, dans la nature. Regardez la nature, vous voyez Dieu. Dieu, il a mis dans la nature le principe de synergie. Quand il y en a un qui prie, il chasse combien ? 1000. Quand il y en a deux, vous voyez ? Regardez la Bible. On a une Bible et on ne s'en sert pas dans les choses pratiques. On s'en sert, voilà, pour, je ne sais pas, mais voilà, ça c'est du pratique au pratique. La koinonia dans l'Église, la relation interpersonnelle passe par la création, la créativité. Pour être créatif, il faut cet échange entre l'individu et le groupe, entre l'ordre qui représente le groupe et la spontanéité. Et il faut les deux. Il faut que les initiatives des uns et des autres... Alors, ça, c'est le grand art hein, du leadership. Mais il faut y arriver. La facilité, c'est Hitler. Je suis d'accord avec le chef. C'est le groupe. Hein. Et puis l'autre, c'est le français... Churchill a dit à un moment donné, mais tu ne peux pas gouverner un pays comme ça. Avec 365 fromages, attends, c'est pas possible. Ouais. Alors lui, il disait, oui, mais toi, tu as trois religions, tu as trois fromages. Bon, il s'est balancé des trucs à la radio, hein, c'est des histoires, vous pouvez l'écouter, voilà, sur le plan politique. Mais les fromages, c'est un très bon exemple. Dans chaque village, dans machin, on a inventé. Le français, il est inventif. Inventif. Vous savez comment Boeing s'est construit ? Il s'est construit sur l'inventivité de la France. Pourquoi je dis ça ? Quelqu'un qui le sait ? Parce que la France a construit Caravelle. Il y en a qui connaissent Caravelle ? Vous avez entendu parler des Caravelles ? L'avion extraordinaire en aluminium et tout ça. C'est en France qu'on l'a fait. Boeing, il en a acheté pour le copier. Et paf, ils ont sorti ça comme des petits pains, des Boeing. Voilà. Parce qu'en France, on a inventé quelques caravelles, mais on n'a pas su le développer. On est très mauvais en groupe, mais on est très bon en individuel. Donc, vous voyez, les Français, Ils ont une créativité individuelle, mais ce qu'il faut, c'est le marier dans un sens de groupe. Et là, on a du mal. Or, l'Église, c'est un groupe. L'Église, quand on se rassemble avec un groupe. Voilà. Et il faut travailler ensemble, il faut se frotter ensemble, il faut marcher ensemble, mais aussi reconnaître les talents les uns des autres et célébrer. Et j'aime bien Paul Goulet quand il dit, nous, à Las Vegas, on célèbre. On célèbre quoi? On ne met pas les gens sur un piédestal, mais on dit, ouais, on est content. On est content de Patrick. C'est super. Hein. Il fait des choses extraordinaires, il fait des choses bien, etc. Bon. Mais il faut aussi qu'il travaille en groupe. Voilà. Et on célèbre aussi le groupe. Voyez, il faut célébrer l'individu, il faut célébrer le groupe. Mais il ne faut pas mépriser l'un et l'autre. Ah, François dit, oh non, non, il ne faut pas célébrer. Il ne faut pas célébrer. Attends, non. La Bible dit, ayez des égards les uns les autres et soyez reconnaissants les uns envers les autres. C'est justement dans cette créativité, dans cette koinonia humaine, horizontale, qu'on doit faire des progrès. Donc c'est un challenge, c'est un défi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que il y a René qui est là, il hoche la tête. Je sais que Hollande sont plus dans le groupe, hein, ils sont très très forts. Mais toi, tu aimes bien aussi en France là. L'autre fois, il me disait, ah, c'est formidable en France. On a fini le repas, on a mangé une entrée, une deuxième entrée, un repas, dessert. Puis après, on vous propose le comment ça s'appelle ? Non non, le chocolat, le café. Café gourmand. Ah, ça recommence. Cap. Ah, incroyable. Fini, hein, ça recommence. Les desserts, les machins. Ouais, c'est l'inventivité extraordinaire, quoi. Café gourmand. Attends. On n'a pas fini de parler des repas français. Mais chaque chef veut faire son repas. C'est formidable. C'est extraordinaire. Mais, voyez, ça, c'est pousser l'individu. C'est bien. Mais s'il est en groupe, c'est encore mieux. C'est de la créativité. Et l'Église doit être créative. Amen. L'Église doit être créative pour être attractive. Alors, c'est ça. Et moi, je suis content qu'on puisse travailler avec RNC qui ont cette même vision, qui vont nous aider à développer cette créativité en comprenant que, en fait, on est ensemble tout en célébrant l'individu. Et c'est un challenge. C'est pas évident, mais c'est à ce titre-là qu'on va redonner du crédit à l'Église. Et que l'Église, c'est les portes du séjour, ne prévendons point. C'est dans l'Église qu'on a la victoire. Pourquoi le monde ne s'en sortira jamais sans Dieu, effectivement? Parce qu'il y en a un qui s'amuse sans arrêt à empêcher ça. C'est Satan. Donc c'est du combat spirituel. L'Église est placée dans le combat spirituel au départ parce qu'il faut savoir que c'est par nature une difficulté, mais toutes les difficultés, nous sommes amenés à les vaincre. Amen. Tu es un vainqueur. Monique, dis-le à ton mari. Tu es un vainqueur. Dites-le à votre voisin. Tu es vainqueur. Tu es un vainqueur. Hein, tu vas vaincre. Hein. Et nous allons vaincre. Amen. Nous allons établir une église qui est un joyau. Hein. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que les relations verticales et horizontales sont développées au maximum. Amen. Et le monde verra. Il croira parce que l'Église a la solution. Il faut qu'elle la mette en œuvre. Voilà. Vous me suivez? Vous la mettre en œuvre. Voilà. Donc, l'ensemble de ces principes, et le principe, maintenant, je ne peux pas le développer, mais vous avez déjà entendu parler. Trouver, perdre. Hein. D'un côté, c'est le deuxième principe. Le premier, c'est lier, délier. Le deuxième, c'est trouver, perdre. Il y en a qui insistent sur le thème perdre. Faut perdre sa vie, faut renoncer à sa vie, etc. Oui, mais l'autre, il dit, faut trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver et perdre. Perdre et trouver. Trouver et perdre. C'est ça, le principe. Il faut que les deux soient associés. Trouver et perdre. Vous voyez, c'est pas simplement perdre. Ouais, faut que je prenne la silice. Il faut que je me tape. Voilà. Ça, c'est une partie de l'Église. Et puis l'autre, oh, c'est, l'évangile de la prospérité. Tu vas, il y a un pasteur, je citerai pas qui, qui a dit, à partir du mois prochain, je veux que tous dans le parking, il n'y a que des Mercedes et des BMW. Non, mais je ne raconte pas de bêtises. Hein. C'est vrai. Hein. Faire des emprunts pour que vous tous. Parce qu'il faut que l'Église, elle montre la gloire de Dieu. Voilà. Ah, c'est passé ici à Paris. Hein. Une très grande église. Non, vous voyez, ça, c'est la prospérité. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, ce que Rick Joyner a dit, ce que Nicolas Guy a dit. C'est être une église basée sur les principes de lier, délier et de trouver et perdre. Renoncer à soi-même et trouver dans le groupe, dans l'Église, eh bien de quoi eh bien être attractif pour le monde et qui donne un élément de société qui peut vivre ça sans tomber dans ces crises sociétales où on développe le libéralisme, on ne sait plus où s'arrêter. Maintenant, les économistes disent « Ah, mais attendez, faut réguler un petit peu l'économie parce qu'elle ne se régule pas toute seule. » Bah oui, mais on l'a fait avant. Oui, mais on le fait trop. Donc, vous voyez, ils ne trouvent pas. L'Église doit trouver ce mode d'équilibre. Amen. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions, Seigneur, même si nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas le problème du nombre, c'est le problème des qualités. Seigneur, tu veux que nous soyons des disciples. Et nous te demandons ton aide, de nous donner, Seigneur, tu nous donnes des clés dans ta parole. Te remercions pour les serviteurs qui passent et qui nous encouragent dans ce sens. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te demander ta grâce. Ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à établir cette Église, Seigneur, sur les principes de vie, les principes de la koinonia, de la communion avec toi, les uns avec les autres, Seigneur. Ce qui importe, ce n'est pas la difficulté que nous rencontrons à le faire, c'est l'obéissance. Et nous voulons être obéissants à ta parole, Seigneur. Et nous voulons te louer dans le nom de Jésus. Amen.